Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous accueillir sur cette troisième journée du séminaire Signoret, après cette conférence que nous avons eue hier, passionnante et pleine d'humour également. Donc on va continuer sur la thématique du trouble de stress post-traumatique. Donc on aura deux interventions. Une première intervention donc de Isabelle Chaudieu, qui est chercheur INSERM à Montpellier, qui est neurobiologiste et épidémiologiste également. Et donc nous commencerons cette matinée avec Isabelle. Et surtout, n'oubliez pas, donc vous avez deux interventions ce matin, suivies d'une courte pause, et enfin, il y aura une synthèse. Donc une synthèse qui est extrêmement importante pour pouvoir renforcer encore les liens entre les différentes interventions. Et évidemment, sans doute qu'à la fin de cette synthèse, vous aurez déjà quelques pistes pour le séminaire de l'année prochaine. Donc seuls ceux qui resteront jusqu'à la fin de ce séminaire auront ces informations. Isabelle, je te laisse la parole. Merci.
Bonjour. Donc merci aux organisateurs pour m'avoir invitée dans ce séminaire qui était fort intéressant, en tout cas pour les deux jours que j'ai pu suivre. Je vais m'appuyer en grande partie sur la conférence qui a été donnée hier par Frédéric Canini sur le stress, qui a donné les bases du stress. Bon, je vais un petit peu en reparler, mais si vous avez ça en tête, ça vous aidera à comprendre un petit peu la démarche que j'ai eue aujourd'hui. En santé publique, une question qui se pose et qui est majeure, en tout cas pour le trouble de stress post-traumatique, c'est de pouvoir repérer les personnes qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Donc les personnes qui sont exposées à un traumatisme, que je vais définir de façon un petit peu plus claire que ce qui a été fait, précise, je vais vous donner exactement la phrase qui est écrite dans le DSM-5 pour dire ce qu'est un traumatisme. Une personne fait l'expérience d'un événement traumatique quand elle est exposée à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou encore à un événement qui menace son intégrité physique, telle qu'une agression sexuelle par exemple. Cette exposition traumatique peut être vécue directement par la personne ou elle peut en être témoin ou encore elle peut avoir appris qu'un tel événement est arrivé à quelqu'un de proche. Donc en termes d'exemples, je vous ai donné des exemples qui sont donnés pour les adultes et pour les enfants. Donc pour les enfants, on a tous les exemples des adultes, mais en plus se rajoute l'expérience sexuelle inappropriée par rapport au développement, même si elle est vécue sans violence ou sans blessure grave. Donc pour les adultes, vous avez déjà un panel dans la tête, comme le combat militaire pour les militaires, les agressions personnelles violentes ou sexuelles, des attaques terroristes dont on a quand même parlé hier soir de façon aussi assez précise, des accidents et puis des catastrophes naturelles. Donc tous ces événements n'ont pas les mêmes impacts. Une personne qui va vivre un événement traumatique, qui va être exposée à un événement traumatique, elle va rentrer dans une période qu'on appelle une période péritraumatique. Alors, la définition de la période péritraumatique, elle peut varier d'un article à l'autre, mais a priori, elle comprend le moment de l'exposition traumatique et puis les heures ou les quelques jours qui suivent cette période. Donc elle va rentrer dans cette période et elle va devoir traiter cette nouvelle information, enfin c'est un peu froid quand je dis ça, mais elle va traiter cette information violente, ce fait qu'elle vient de vivre, ces émotions violentes qui l'accompagnent. Et donc on va pouvoir commencer en psychiatrie à faire un diagnostic de trouble de stress post-traumatique ou même de dépression post-traumatique après un certain temps. On trouve normal qu'une personne qui vient de vivre un événement traumatique soit dans un état émotionnel particulier. Donc à un mois, on va pouvoir faire un diagnostic et on s'aperçoit dans la plupart des études, et celle-là en particulier, qu'une grande majorité de ces sujets vont être ce qu'on appelle résistants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas développer de troubles de stress post-traumatique ou de dépression. Par contre, d'autres vont développer un trouble de stress post-traumatique, d'autres une dépression, et d'autres les deux troubles simultanément. Donc sur cette diapositive, vous voyez plusieurs colonnes. Donc en, complètement sur votre gauche, en kaki, vous avez la population, une population de vétérans aux États-Unis. Au milieu, la population générale des États-Unis, aux États-Unis d'Amérique. Et puis à droite, en bleu, une population d'Europe qui a été réalisée grâce à différents pays qui sont entre parenthèses Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne. Donc des populations générales, c'est des populations qui ne sont pas des populations cliniques et qui ne sont pas des populations à risque. C'est vraiment tous, nous, de façon représentative finalement de la population du pays. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'exposition à un événement traumatique est supérieure à 50%, comme je vous le disais précédemment, avec des taux environ de 55% femmes et hommes confondus, et une exposition... là, donc, c'est sur cette ligne. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, ici. Une exposition, donc, chez les hommes qui est supérieure, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, par rapport aux femmes. Et puis, évidemment, une exposition chez les vétérans qui est beaucoup plus importante. Par contre, en termes de prévalence du trouble vie entière, donc, quand on regarde, oui, sur la vie entière, c'est assez parlant, prévalences aux États-Unis sont plus importantes que les prévalences en Europe. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le monde entier, avec des prévalences aux États-Unis qui ont toujours été repérées comme étant autour de 8% et quelquefois plus dans la littérature, alors qu'en Europe, en Australie et dans d'autres pays, on tourne plutôt autour de, des prévalences de 2%. Vous voyez que les combattants ont une prévalence équivalente à peu près à la population... Bon, ça marche plus. À la population générale des États-Unis. Alors que le sujet étant les facteurs de vulnérabilité et de résilience, mais la résilience, je ne vais presque pas la traiter parce que je vais surtout vous parler de biologie et qu'en biologie, on n'est pas vraiment avancé sur ce terrain-là. Donc, les facteurs de vulnérabilité sont de plusieurs sortes. Nous avons des facteurs sociodémographiques et des facteurs, plusieurs facteurs que j'ai classés selon trois catégories. Les facteurs qui sont antérieurs à l'exposition traumatique, les facteurs qui sont péritraumatiques et les facteurs qui sont post-traumatiques. Alors, post-traumatique et péritraumatique, ça se superpose un petit peu, sauf que la phase péritraumatique est beaucoup plus courte dans le temps. Donc nous avons des facteurs sociodémographiques qui, en épidémiologie, nous permettent tout le temps d'ajuster nos modèles, comme un âge, alors un âge plus tendre, plus, quand on est plus jeune, on a plus de risques de développer un trouble de stress post-traumatique. Les femmes, comme je vous l'ai dit précédemment, par rapport aux prévalences, ont un risque augmenté. Et puis, un statut économique faible ou une éducation faible, qui sont relativement corrélés, sont des facteurs péjoratifs pour le développement du trouble de stress post-traumatique. On considère aussi l'histoire traumatique de la personne, ce qui est très très important comme facteur de vulnérabilité, et puis l'histoire psychiatrique personnelle et familiale. Dans les facteurs péritraumatiques, le type d'événement traumatique est important, et je vais vous remontrer une diapositive que vous avez déjà vue hier, avec un certain nombre d'événements traumatiques qui vont du fait d'avoir été témoin du traumatisme vécu par un autre individu jusqu'aux agressions sexuelles en bas, donc sur l'axe vertical. Et puis, vous voyez en rouge donc la prévalence de ce trauma en population générale, donc les agressions sexuelles qui sont beaucoup plus faibles en prévalence que le fait d'avoir, par exemple, un accident de la route. Et en vert, vous voyez des colonnes qui correspondent aux prévalences, c'est-à-dire à la fréquence du trouble à la suite de ce type d'événement. Donc, il y a une inversion, finalement, entre la possibilité de rencontrer cet événement au cours de la vie et le poids de cet événement sur le développement du trouble de stress post-traumatique, avec les événements les plus graves et qui sont évidemment les agressions sexuelles, le combat et les problèmes vécus durant, enfin les maltraitements ou les agressions durant l'enfance. Je vais vous parler sur cette diapositive aussi de ce qui peut se passer en post-traumatique, mais je ne vais pas vraiment l'étudier au cours de cette présentation. Mais c'est important de le dire au moins une fois. Donc, des événements post-traumatiques qui sont très importants sont les événements stressants intercurrents. Et dans la présentation de Frédéric Canini, vous avez vu le modèle de double hit. Des fois, on parle même de triple hit. Où on voit finalement que des événements de stress qui se surimposent à une exposition traumatique sont importants aussi pour le développement de ce trouble. La qualité du soutien social, alors là c'est un des facteurs de résilience les plus importants, et finalement la résilience est beaucoup traitée par les sciences en psychologie sociale. Comme je vous le disais, donc ils ont beaucoup plus avancé qu'en biologie finalement. Sur ce terrain-là. Donc, souvenez-vous de la qualité du soutien social qui est très importante pour le développement du trouble de stress post-traumatique dans cette période-là. Bon, je vais parler maintenant un petit peu de biologie, de neurobiologie. Donc, vous voyez là différents types de facteurs, toujours classés de la même manière, antérieurs ou péritraumatiques. On a donc des facteurs biologiques, c'est-à-dire qui correspondent à des protéines, des hormones, des ARN messagers qu'on a pu mesurer dans différents recueils, que ce soit de l'urine, du sang, de la salive. Et puis, des facteurs génétiques, épigénétiques. Alors ça, c'est une catégorie de recherche qui explose en ce moment grâce à l'épigénétique, avec des gènes comme le FKBP5, le NR3C1. Enfin, les premières études qui ont été faites, ce sont des études qui ont été faites sur des associations entre la présence d'un gène chez un sujet et le fait qu'il développe un trouble de stress post-traumatique par rapport à des personnes qui ont été exposées et qui n'ont pas ce gène, enfin c'est pas un problème de gène, c'est un problème de polymorphisme d'allèle, de vulnérabilité. Alors on a repéré certains gènes, mais la multiplication des études qui ont été ciblées sur ces gènes sont concordantes pour la plupart des résultats que je vous montre ici. Il y a d'autres gènes qui sont sortis, mais bon, pour cela en tout cas, on est sûr qu'ils ont un effet. Alors ce qu'on sait de mieux en mieux maintenant, c'est qu'ils peuvent avoir un effet pour des sous-groupes de sujets, non seulement qui ont ce gène de vulnérabilité, mais qui ont en plus vécu des choses comme des expositions multiples à des traumas ou des expositions très jeunes à des événements difficiles, sévères. Donc finalement, le champ de la recherche en génétique se développe et s'oriente beaucoup, même pour les gènes qui ont été détectés avant, sur des recherches de modifications épigénétiques. Donc on étudie ces gènes par des études, ce qu'on appelle de gènes environnement, ou directement par leur transformation, par exemple des méthylations, dans certains cas, si on les a observés. Il y a aussi des facteurs cognitifs, mais d'abord, je voudrais quand même vous dire que les gènes de vulnérabilité exercent individuellement des effets très faibles. Et donc, c'est l'interaction de plusieurs gènes entre eux ou avec l'environnement qui peut nous donner une idée de l'importance de ces facteurs de vulnérabilité. Les facteurs cognitifs que vous connaissez, qui ont été décrits tout au long de ces journées, comme l'augmentation de la réponse à la peur, l'hypervigilance, l'hyper-éveil, une évaluation négative de soi, et puis des facteurs cérébraux, ce n'est pas ma spécialité, mais je vais quand même vous montrer une image qui est tirée donc d'un article d'une revue d'Anne-Monde, qui s'est intéressée à faire la revue de toutes les structures cérébrale en IRM fonctionnel qui était modifié chez les sujets qui développaient ou qui avaient un PTSD, un TSPT, excusez-moi. Et dans cette diapositive, vous pouvez voir. Vous pouvez voir des régions avec des petits triangles rouges, donc ici l'amygdale et le cortex cingulaire postérieur, qui sont des régions dont on est sûr, à peu près, enfin bon, dont on a une bonne certitude, qu'elles interviennent comme facteurs antérieurs à l'exposition traumatique. Et puis des régions, donc ça c'est des régions hyperactives, hein, et puis des régions hypoactives, comme le cortex préfrontal ou l'hippocampe, ou la connectivité qui rassemble, l'interconnectivité entre le cortex frontal et l'hippocampe, qui sont hypoactifs, et ces observations-là, elles peuvent être faites relativement précocement, juste après l'exposition traumatique, mais ne seraient pas antérieures à l'exposition. J'ai rajouté sur cette diapositive donc, le volume hippocampique qui est discuté, puisque Jacques Dayan vous disait qu'il pensait que, comme ça n'avait pas été reproduit de façon extensive, on n'en était pas sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression, dans ce que je lis quand même, qu'on a quand même une bonne certitude sur le fait qu'une partie des modifications qu'on observe sur l'hippocampe chez les personnes atteintes sont quand même des facteurs, en particulier anatomiques, qui sont modifiés avant l'exposition traumatique à l'âge adulte. Elle résulte peut-être d'un problème antérieur, par exemple d'exposition dans l'enfance, mais donc quand on les observe, elles sont antérieures. Ce qui peut être intéressant aussi lorsqu'on fait ce type d'étude, c'est d'essayer donc de faire des associations entre des facteurs de risque tels qu'un gène et puis ce qu'il peut modifier de façon intermédiaire avant le diagnostic, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire des associations entre un gène et puis une structure qui est modifiée chez les sujets qui sont atteints de TSPT. Et c'est ce que je vais vous montrer ici, avec une figure que j'ai empruntée à nos amis de Caen, qui ont publié cette figure dans un livre que je vous recommande, qui a été publié par l'association ABC des psychotraumas, et puis un autre article de cette même étude. Donc cette image vous montre, comme je le disais tout à l'heure, donc des régions qui sont touchées, que ce soit de façon anatomique, c'est-à-dire sous forme de volume modifié ou sous forme de fonctionnement à l'IRM fonctionnel. Ce que je voulais vous montrer sur cette diapositive, c'était ce que j'avais marqué notamment sur le gène FKBP5, qui est un gène qui code pour une protéine qui va réguler l'axe HPA, donc cet axe qui est primordial dans la réponse de stress. Et donc ce gène, l'allèle de risque d'un certain polymorphine est associé à un biais d'attention sur les signaux menaçants, une augmentation de l'activation de l'hippocampe lors d'une menace et des différences structurales hippocampiques. Donc là, on a quand même des éléments intéressants pour fortifier le résultat génétique. Sur cette diapositive, j'ai repris les éléments biologiques que je viens de vous donner, mais j'ai souligné en rouge tous les éléments qui correspondaient à des protéines qui interagissaient avec le système de stress. Donc le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble qui se développe à la suite donc d'une exposition traumatique, comme je vous dis, qui doit être gérée par le sujet. Donc la première chose que la personne exposée va gérer, c'est sa réaction de stress. Et cette réaction de stress, elle, va enchaîner différentes modifications en termes cognitifs qui vont créer ce trouble de stress post-traumatique. Donc vous voyez sur cette diapositive ce schéma donc de la réaction de stress, avec un stresseur qui va déclencher une réaction au niveau cérébral. Et qui va induire donc la stimulation de deux axes principaux, l'axe sympathique et l'axe hypothalamus hypophyse surrénal, qui va aboutir à la libération de glucocorticoïdes et de cortisol donc chez l'homme, et puis des catécholamines, adrénaline, noradrénaline. Alors ce qui est important de savoir en fait pour comprendre un petit peu ce qui se passe en biologie, c'est que le cortisol a un rôle important dans la réaction de stress. Ça va déclencher des tas de cascades, y compris intracellulaires et de modifications génétiques, mais surtout il a un rôle, enfin surtout entre autres, il a un rôle important pour inhiber cette réaction. C'est-à-dire que quand l'exposition traumatique est terminée, il faut que cette réaction de stress soit régulée et qu'on revienne à un niveau basal. Et pour cela, le cortisol joue un rôle important. Donc, voilà, tous les marqueurs qui sont en rouge sont des marqueurs qui sont liés à ces systèmes de stress. Et puis des marqueurs en noir comme la CRP sont des conséquences aussi de l'activité de cet axe de stress. Donc je vais vous développer, c'est un peu une synthèse finalement aussi de la biologie pour expliquer le développement de ce trouble de TSPT. Vous avez deux compartiments, le compartiment haut qui est un compartiment donc, qui représente le système nerveux central, qui pour un épidémiologiste est la boîte noire, parce qu'en tout cas jusqu'à il y a un certain nombre d'années. Donc ils ont été recherchés ce qui se passait en périphérie pour expliquer ce qui se passait dans le cerveau. Maintenant on a l'IRM fonctionnel, mais bon, ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc on a beaucoup aussi développé la biologie en psychiatrie grâce à l'étude de notamment la gestion du stress. Et ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est des facteurs de vulnérabilité qui ont été observés chez les sujets qui allaient développer un trouble de stress post-traumatique, en tout cas une partie des sujets. En particulier un cortisol faible et une noradrénaline élevée. Et la conjugaison de ces deux observations va conduire à un encodage des mémoires émotionnelles associées à la peur beaucoup plus fort, parce que dans ce trouble, l'émotion joue un rôle très important, notamment en relation avec l'encodage de la mémoire. Et donc ce cortisol faible, donc ce cortisol qui ne peut plus réguler, bloquer le rappel des mémoires émotionnelles parce qu'il est trop faible et qui ne bloque pas non plus la réaction de stress, entre autres, et qui, ou de façon pas définitive. Donc cette installation de réticence, qui est quand même le symptôme cardinal de ces maladies, peut permettre donc le développement du trouble de stress post-traumatique, aidé évidemment par tout ce qui se passe au niveau cérébral, avec des modifications de la réponse exagérée de l'amygdale au signal de peur, un hippocampe qui peut être endommagé et qui ne régule pas cette émotion de peur en conjonction avec le cortex préfrontal. Donc l'hippocampe qui est responsable aussi de la détérioration de la capacité de discriminer entre les contextes sécurisants ou non et la généralisation du phénomène. Du phénomène de peur. Ouais. Donc maintenant, je vais passer à une deuxième phase de cette présentation. Je vais vous montrer des résultats d'une étude qu'on a eue à Montpellier il y a quelques années, qui étudiait donc les facteurs de vulnérabilité de ce trouble, de développement du trouble, chez des sujets en population, ce n'est pas une population générale, puisque c'est des gens qui ont vécu un événement traumatique et qui se sont présentés aux urgences dans différents hôpitaux et cliniques de la région de Montpellier. Donc, pour cette étude, on s'est appuyé, cette étude Phoenix, on s'est appuyé sur un modèle de stress diathèse qui est très utilisé en recherche, en psychiatrie, pour notamment étudier la dépression ou les troubles anxieux, et en particulier le trouble de stress post-traumatique. Et c'est un modèle donc, qu'on appelle un modèle de stress diathèse, qui suggère donc, que les facteurs de risque individuels constituent une vulnérabilité au stress qui, si elle est activée de façon suffisamment forte par un stress, peut permettre ce développement de ce trouble. Donc c'est un modèle qui est assez utile, notamment pour le développement du trouble de stress post-traumatique, parce qu'il permet d'expliquer la variabilité du développement du trouble en fonction finalement de facteurs de vulnérabilité et d'intensité de stress. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vivre des stress importants, s'ils n'ont pas beaucoup de vulnérabilité, ils ne vont pas développer de trouble de stress post-traumatique, et à l'inverse, des gens qui vont développer un trouble de stress post-traumatique avec une exposition, par exemple, à un accident ou des choses un petit peu moins importantes et qui vont donc avoir un certain nombre de facteurs. Voilà. Donc ceux que nous allons étudier dans Phoenix, ce sont des facteurs biologiques, psychologiques et cognitifs. J'ai développé en deux diapositives donc la partie diathèse psychologique avec l'étude donc de l'histoire psychiatrique des personnes et de la dissociation péritraumatique et la détresse péritraumatique dont vous avez aussi entendu parler hier, qui sont donc des facteurs de risque assez reconnus du développement de ce trouble. Et puis, on a étudié aussi, pour la biologie, des marqueurs d'allostasie. Les marqueurs d'allostasie, vous avez, Frédéric Canini a parlé de l'allostasie hier. Je vais vous en parler un petit peu plus. En fait, l'allostasie, c'est le moyen de réguler finalement les réactions de l'organisme en changeant de niveau d'activité. Contrairement à l'homéostasie qui est un état d'équilibre continuel, l'allostasie, ça concerne tous toute la biologie qui va se modifier, qui va réagir à un certain niveau pendant un certain temps pour que l'organisme fonctionne au mieux. Donc ça concerne évidemment tous les marqueurs de stress. Donc ce que j'ai montré sur cette diapositive en bas, c'est qu'on parle d'allostasie. L'allostasie, c'est bien quand ça fonctionne bien, c'est le stress en fait. Mais quand on commence à avoir une accumulation de stress, d'événements dans sa vie, on a des modifications de cette régulation de stress qui peuvent apparaître en fonction de ces vulnérabilités génétiques aussi. Et on va commencer petit à petit, si ces dysfonctionnements s'additionnent, donc à parler d'adaptation ratée, c'est ce que vous a dit Frédéric Canini dans certains cas, et puis à une accumulation de ratage, et puis finalement, on va avoir des impacts majeurs qui vont commencer par des impacts secondaires sur, par exemple, des marqueurs métaboliques qui sont anormaux, de l'inflammation, et puis on va finir par développer un certain nombre de maladies, dont certaines maladies psychiatriques, mais aussi un certain nombre de maladies physiques, comme l'hypertension artérielle, le diabète, et j'en passe. Donc, ce qui est intéressant de savoir pour étudier donc ces facteurs d'allostasie ou ce qu'on appelle la charge allostatique, c'est que la réponse au stress, elle implique des réseaux finalement de médiateurs d'allostasie qui sont tous interconnectés et qu'il va falloir donc en prendre en compte un certain nombre pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. J'ai oublié de vous dire quelque chose sur cette diapositive. Donc, ces médiateurs, en épidémiologie ou dans la modélisation finalement du développement du trouble, on va pouvoir les analyser de deux manières différentes. C'est ce que j'appelle le niveau 1, quand on va regarder l'effet des marqueurs de façon individuelle. Donc, on va chercher des marqueurs qui sont très prédictifs, plutôt, que quand on va les regarder sous forme d'une charge allostatique que je vais définir, où on va analyser comment finalement une usure générale de la régulation du stress va avoir un impact sur le développement du trouble de stress post-traumatique. Alors comment on va mesurer, comment on va scorer finalement l'usure de la régulation du stress chez un individu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le nombre de sujets, le nombre de marqueurs, excusez-moi, pour lesquels l'individu va tomber dans le risque, dans le quartile de haut risque dans cette population. On a une population de 100 sujets. On va diviser pour chaque marqueur cette population en quartile, c'est-à-dire en 25%. Et on va voir si un individu a un marqueur, par exemple le cortisol, qui va, c'est un mauvais exemple, le cholestérol total, qui va tomber dans le marqueur de haut risque, dans les 25% des sujets de cette population qui ont le cholestérol le plus élevé. On va scorer un point pour cet individu s'il est dans ce quartile, et puis on va faire ça pour tous les marqueurs, et on va donc avoir un score individuel de charge allostatique. Pour certains marqueurs, on va regarder plutôt le quartile qui se trouve de l'autre côté, hein, puisque le quartile de haut risque, par exemple pour le cortisol, ça peut être le fait de ne pas en avoir assez. Donc, cette étude, elle a été menée sur 123 sujets, hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, qui ont été recrutés donc, dans les urgences, comme je vous disais. On a étudié à l'entrée dans l'étude, durant les 7 premiers jours, donc après l'exposition, les médiateurs d'allostasie, la détresse, la dissociation péritraumatique et la psychiatrie passée du sujet. Puis on l'a suivi ensuite à 1 mois, 4 mois et 12 mois. Et on a fait des diagnostics à chacun de ces temps pour voir comment se développait ou se maintenait ce trouble. Les types d'événements qui ont été qui étaient présents dans cette cohorte, c'était des agressions physiques ou sexuelles, des accidents de la route graves, des accidents du travail, et puis on a eu aussi des victimes de kidnapping ou ce genre d'événements. Donc pour étudier la diathèse psychologique, donc surtout la psychiatrie passée et la réaction au moment de l'exposition traumatique et dans les jours qui ont suivi, on a des échelles, donc une échelle qui mesure la détresse et une autre qui mesure la dissociation péritraumatique. Et puis, on a aussi des instruments que je ne détaillerai pas, le MINI et le PTSD Interview pour les diagnostics de psychiatrie générale et de troubles de stress post-traumatique. Cette cohorte était constituée de gens qui étaient dans le premier âge de la vie adulte, 36 ans et demi, en gros, de moyenne d'âge, avec très peu de personnes âgées, donc on avait régulé donc 70 ans. Mais on en a eu très peu au-dessus de 40 ans, 50 ans plutôt. Ils avaient eu des événements très sérieux, puisque 70% des sujets avaient vécu des événements interpersonnels, qui sont quand même des événements les plus graves, c'est-à-dire les agressions. Et puis, ils avaient quand même des profils particuliers en termes de psychiatrie, avec un certain nombre de troubles vie entière repérés avec le MINI, donc par le passé. Donc une population quand même particulière. La prévalence de ce trouble à 1 mois, 4 mois et 12 mois était de 28% à 1 mois, 21,2% à 4 mois et 17,5% à 12 mois. Donc il y a des gens qui récupèrent. Et sur ce tableau, je vous ai montré donc le niveau 1 d'analyse, c'est-à-dire tous les marqueurs et l'impact qu'ils ont sur le développement du trouble. Vous avez en bleu la détresse et la dissociation péritraumatique, ici, avec une prédiction significative à 1 mois et 4 mois, un peu moins significative, même pas du tout, à 12 mois, une bonne tendance quand même. Et puis, donc ça c'est des études où on regarde juste l'effet du marqueur, mais on avait quand même ajusté sur l'âge et le sexe. Hein. Et puis, tous les marqueurs biologiques qui sont à la suite, et les marqueurs qui sont soulignés en rose, qui, à un moment du développement de ce trouble, ont un impact sur le développement du trouble, excusez-moi. Donc, on revoit des choses qu'on attendait, c'est-à-dire un cortisol fort qui protège, puisqu'on a un ODDS ratio qui est inférieur à 1, et qui est significativement, cet effet est significatif à 4 mois, une noradrénaline élevée aussi qui facilite le développement du trouble chronique à 4 mois, et puis d'autres marqueurs qu'on connaissait un petit peu moins, comme l'hémoglobine glyquée, qui a aussi une prédiction intéressante, en tout cas au début et à 4 mois, et la systole et la diastole, donc la pression sanguine systolique et diastolique, qui prédit aussi à 1 mois et à 4 mois. La surprise, c'était aussi la prédiction qu'on a pu voir avec des index morphométrique, donc qui calcule soit l'indice de masse corporelle comme l'IMC, donc que j'ai appelé le BMI puisque c'est un tableau avec en anglais, et le WHR qui mesure le rapport du tour de taille sur le tour de hanche, qui est une mesure de la dispersion des graisses sur le corps, qui est un index aussi du stress chronique chez les sujets. Donc là, c'est un modèle multivarié, c'est-à-dire que j'ai pris tous les marqueurs qui, dans la précédente analyse, étaient significatifs. Je les ai rentrés tous ensemble pour voir comment ils s'ajustaient mutuellement les uns aux autres. Et j'ai modifié donc ce gros modèle en essayant de le simplifier de façon la plus importante possible sans qu'ils perdent de pouvoir de prédiction. Donc ça, c'est de la cuisine. Et on est arrivé à des modèles donc de ce type-là sur donc le niveau 1 d'analyse avec toujours des prédictions à 1 mois, à 4 mois et à 12 mois. donc première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'à un mois, l'association finalement de marqueurs de détresse péritraumatique, et, enfin des marqueurs psychologiques et des marqueurs biologiques, ce qui n'avait pas été fait avant en fait, permet de mieux prédire le développement du trouble de stress post-traumatique. Et on voit donc les marqueurs qui subsistent dans ce modèle, qui sont la systole et le WHR. Et puis, ces marqueurs, finalement, en biologie, qui vont prédire tout au long de mes trois modèles aux différents temps, alors que, finalement, la détresse et la dissociation péritraumatique n'ont plus d'impact sur la maintenance du trouble à 12 mois. Quand j'analyse de la même manière au niveau 2, donc là je vous présente mes charges allostatiques qui sont composées de 9 des marqueurs précédents, j'ai produit deux index, enfin j'ai utilisé pour faire les modèles deux types de charges allostatiques, celle qui est habituellement utilisée et qui a été créée de cette manière-là dans la littérature par McEwen, ou en tout cas son équipe, et qui est supposé être associé à un passé de stress chronique. C'est-à-dire les gens qui ont un stress chronique, en général, on voit qu'ils ont un cortisol légèrement supérieur. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans une partie des gens qui sont dépressifs. Alors qu'en trouble de stress post-traumatique, on a un risque inverse. Donc j'ai créé deux charges où cette variable cortisol était traitée différemment en termes de facteurs de risque. Dans les analyses univariées, quand je regarde l'effet de la charge allostatique 1 et 2, la charge allostatique 1 ne sort pas du tout pour prédire ce développement. Donc je vous montre juste le modèle multivarié avec donc la diathèse psychologique, enfin les marquages des variables psychologiques. Et on voit exactement la même chose pour ces variables, c'est-à-dire une prédiction qui est utile pour un mois et quatre mois, mais la charge allostatique qui ne prédit pas qui ne rentre pas dans ces modèles plus précoces, elle est la seule à prédire la maintenance du trouble. Donc c'est intéressant à ce titre. Alors ce que j'ai pas montré, et je vais revenir un peu dessus, c'est que là on est sur des taux de concordance, c'est-à-dire qu'on prédit dans notre échantillon 75% des cas à un mois, 82% à 4 mois et 85% à... mince, pas vrai. Ok. Mais dans le modèle niveau 1, on avait une meilleure prédiction avec 84% des cas qui étaient prédits à un mois, 93% à 4 mois et 96% à 12 mois. Donc c'est ça le meilleur, enfin c'est le meilleur modèle pour l'instant, même si on peut retravailler la charge allostatique et que intellectuellement, en tout cas en théorie, c'est intéressant de continuer sur ce sujet. Donc les résultats de ce trouble, c'est que les mécanismes neurobiologiques et psychologiques qui sous-tendent le développement du TSPT sont hétérogènes, en particulier entre ceux qui favorisent le développement du trouble et ceux qui le maintiennent, et ça c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que c'est un trouble qui est dynamique, il y a des événements qui se mettent en place, des adaptations successives qui se mettent en place au cours donc, des mois qui suivent et qui peuvent modifier donc, le fait qu'on ait ou pas le diagnostic. La diathèse psychologique est donc un meilleur prédicteur à court terme, mais la diathèse biologique, elle peut prédire tout au long développement de ce trouble et surtout la maintenance du trouble. Et voilà, les scores de charge allostatique élevés sont associés avec l'incapacité de récupérer du TSPT aigu. Hier, il y a eu la question de savoir si on pouvait justement mesurer l'usure du stress qui a été posée à Frédéric Canini. Ben, la réponse, c'est peut-être la charge allostatique. C'est ma dernière diapositive, j'ai encore 2 minutes. C'est bon ? Je ne me rends pas compte. Donc, c'est juste parce que je sais que vous êtes un certain nombre ici à travailler plutôt dans les sciences sociales, psychosociales. Et je trouvais que c'était intéressant de vous montrer une étude qui étudie donc le développement aussi de ce trouble à partir de marqueurs. Et ce qui était intéressant en particulier, c'était qu'ils avaient utilisé donc aussi des marqueurs qui étaient antécédents à l'exposition traumatique, qui était péritraumatique et qui était vraiment post-traumatique, ce que je n'ai pas fait moi. C'est-à-dire, ils ont rajouté par exemple, les stress intercurrents. Alors, ce qu'ils ont regardé dans leur population, c'est le développement à 2 mois. Ils ont fait aussi plusieurs modèles successifs en ajoutant à chaque fois des catégories, finalement, de marqueurs pour voir ce qu'elles pouvaient apporter à la modélisation et à la prédiction. Et vous voyez en bas qu'on a une prédiction parce que là, ce qu'ils ont regardé, ce n'est pas des diagnostics, en fait, c'est des symptômes. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils expliquent 16% de la variance qu'ils ont dans leur cohorte, juste avec le dysfonctionnement parental et les événements de l'enfance, donc des facteurs qui sont importants. Et puis, petit à petit, ils rajoutent donc des événements. Est-ce que l'enfant ou l'individu a été heureux chez lui pendant... quand il était à la maison, ce genre de choses, l'éducation, puis ensuite les traumas qu'il a vécu, et je vois rien en plus, la sévérité des traumas, puis ensuite on arrive à la fin, donc à l'avant-dernière catégorie, à la réponse de stress péritraumatique sur le dernier événement traumatique qui les a fait rentrer dans la cohorte, et puis qu'est-ce qui s'est passé en termes de support social et de stress à la suite pendant les 2 mois avant de faire le diagnostic. Et ce qu'ils voient, c'est qu'ils passent donc 16... Déjà, évidemment, leurs modèles sont de plus en plus prédictifs. Ils arrivent à expliquer 72% de la variance, ce qui est très, très, très bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, que l'influence des facteurs de risque est limitée dans le temps. Et que les facteurs récents, les facteurs de stress ou le support social qui, lui, va diminuer l'impact sur la psychiatrie, enfin, va diminuer les symptômes. Donc, ces facteurs récents ont plus d'influence sur le résultat que les facteurs qui sont très précoces dans la vie. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, ces facteurs anciens sont simplement un potentiel de vulnérabilité et qu'ils n'ont donc pas d'impact actuel sur le diagnostic quand on regarde les facteurs les plus proches. Donc cette étude a été réalisée à Montpellier, évidemment en coordination avec différents acteurs du CHU, de l'INSERM, et puis évidemment des participants qui ont été très très durs à recruter pendant 3 ans et demi. Et puis je vous remercie de votre attention.
Merci Isabelle pour cet exposé également très riche et qui nous permet aussi de faire des liens avec la clinique. Donc j'imagine que ça va susciter différentes questions. Je vous laisse la parole, on a quelques minutes. Moi j'ai une petite question à ouvrir. Justement, par rapport à ta casquette un peu d'épidémiologiste et tout ce qu'on a vu par rapport aux facteurs de vulnérabilité plus anciens, donc les événements aussi plus récents, la question en fait de l'âge et de la fréquence en population générale du trouble de stress post-traumatique chez l'enfant versus chez l'adulte. Je te pose une colle.
Elle est bien inférieure, mais je peux pas te répondre exactement. Mais en fait, souvent, les enfants, ils sont exposés, ils développent pas nécessairement un trouble de stress post-traumatique parce qu'ils s'adaptent. Par contre, ils se développent. Leur cerveau se développe donc tardivement, comme tout le monde le sait, donc jusqu'à presque 25 ans, je crois, ou plus. Donc, ça peut impacter, par contre, le développement du cerveau et après augmenter le risque de développer un trouble de stress post-traumatique à l'âge adulte. Et par exemple, l'histoire du cortisol, quand on regarde finalement chez les sujets petits, on sait... Enfin, je vais partir à l'envers. Chez les adultes qui ont un cortisol bas, on le retrouve beaucoup chez les femmes qui ont été agressées sexuellement, notamment ce marqueur-là, qui ont été agressées sexuellement pendant l'enfance. Mais si tu suis une cohorte de sujets qui sont agressés sexuellement enfants, tu vas t'apercevoir qu'ils vont passer par une adaptation où le cortisol va être beaucoup plus élevé, et c'est ceux qui seront à risque de PTSD à l'adolescence et à l'âge adulte, enfin jeune adulte. Mais... ensuite le cortisol va rebaisser. Donc il y a des tas de régulations qui se font au cours du temps, qu'on connaît plus ou moins pour le cortisol, mais qu'on ne connaît pas pour tous les troubles de vulnérabilité. Tu as vraiment des modifications qui se font, et notamment... J'ai présenté un gène pour le transporteur de la sérotonine, où on s'aperçoit que finalement, c'est une modification épigénétique ou la modification génétique qui induisent toutes les deux une diminution du nombre des transporteurs, on a un risque inversé. C'est-à-dire, dans un cas, on a une augmentation de risque de PTSD quand on a la forme courte du gène, de l'allèle. Et quand on a la modification épigénétique sur le même gène, donc c'est-à-dire une méthylation importante, on débouche sur une protection pour le PTSD. Ça, c'est des choses qu'on a vraiment du mal à comprendre. Et si moi, enfin, je suis peut-être quelqu'un d'un peu pessimiste, mais quand les gens pensent qu'avec l'épigénétique, on va arriver à tout expliquer, c'est peut-être vrai, mais on va mettre beaucoup de temps pour y arriver. Voilà.
On va peut-être du coup identifier certains facteurs au-delà de l'épigénétique, médiés par l'épigénétique et qu'on avait peut-être davantage négligé auparavant.
Ben, oui, en fait, ce dont on se rend compte finalement, les épidémiologistes, ils ont compris finalement que l'environnement était important. Donc quand ils ont fait de la génétique, ils ont commencé par garder les gènes seuls, enfin les variants de vulnérabilité. Puis après, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas toujours, que ce n'était pas toujours reproduit. Donc ils ont cherché des événements de l'environnement, donc on fait ce qu'on appelle des analyses gènes-environnement, puis maintenant on s'aperçoit que si on cherche bien, il y a peut-être des marques épigénétiques sur ces gènes-là. Donc c'est des choses qui progressent avec le savoir et qu'on remet toujours en cause finalement pour essayer de comprendre ce qui se passe et l'intégrer dans des connaissances plus qu'on puisse comprendre quoi, le sens de tout ça quoi. Voilà.
Merci.
Mais de rien.
Si. Tu peux revenir sur ta dernière slide sur les facteurs prédictifs psychosociaux, parce que je voudrais comprendre, parce que pour l'instant,
pourquoi
de me dire que le dernier événement très très hyper traumatique aigu va interférer pour 72% en gros de... Comment ils arrivent à isoler ce facteur ? Avec quels outils ?
Non, mais ils ne l'isolent pas, en fait. Après, c'est une interprétation des résultats. La seule chose que... ils n'isolent pas. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils augmentent, ils augmentent l'explication, finalement, avec ce modèle de la prédiction. Mais, en fait, ce sont des facteurs qui absorbent les autres.
Ben oui, c'est
ça le truc.
C'était ça le problème, c'est qu'ils intègrent,
mais bien sûr,
en fait,
c'est bien qu'un historien ait vu ça, parce que ce n'est pas facile à voir, mais... C'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une continuité dans la vie des gens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'intervention, parce que l'objectif, finalement, et le côté optimiste de ce type de résultat, c'est de dire, attention, si on contrôle le stress chez les gens, qu'on les entoure, qu'on fasse un travail de ce côté-là, on va peut-être pouvoir diminuer le risque de développer... les autres sont moins importants. Moi, je ne le crois pas beaucoup... Enfin, je le crois en partie, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses en termes d'intervention, mais quand même, les gens qui ont des stress intercurrents ou qui n'ont pas d'environnement social bénéfique à la suite de l'exposition, c'est souvent les mêmes que ceux qui ont eu un parcours difficile au cours de vie. Donc, il faut travailler, il y a des choses à faire, mais c'est absorbé par les autres, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des corrélations importantes entre ces différentes variables, et donc elles absorbent la prédiction des autres, qui deviennent non significatives dans ces modèles.
Et tu vois, ce qui me gêne, et on a le même problème en histoire avec les statisticiens, c'est la magie des chiffres.
Il faut savoir
là,
en parler.
Là, avec le 0.003, c'est vrai que ça fait très scientifique, quoi.
Ouais.
Mais comme tu l'expliques très bien... la clé, elle va tordre en fait les résultats. La clé d'analyse, la clé d'interprétation, l'emboîtement des facteurs qui fait que le dernier va révéler certainement une chaîne de facteurs antérieurs.
Il révèle, mais il ajoute quand même. Il ne faut pas oublier
Bien sûr, oui.
17% quand même de la variance, autant que les événements de l'enfance qui est expliqué par ces facteurs-là. Et c'est sur cela qu'on va pouvoir agir. Et c'est pour ça que les gens travaillent. pour savoir ce qu'on peut faire en intervention. Voilà. Mais tu as raison. C'est...
Eh ben, merci beaucoup, Isabelle, encore, pour cet exposé et toutes ces réponses. Ah, excusez-moi.
Je sais pas si on...
Oh là là. Je manque à tous mes devoirs.
Merci. Alors, moi, j'ai une question. Finalement, en fait, elle fait un peu aussi suite à la conférence grand public d'hier soir. Mais je pense que vous allez peut-être être en mesure de me répondre. Depuis le début du séminaire, on parle seulement de stress post-traumatique. Mais en fait, existe-t-il un stress pré-traumatique ? Bon, en fait, je vous avoue que depuis hier, j'ai quand même réfléchi à la question. Je suis allée faire une petite recherche. Et j'ai vu que ça pouvait exister, mais finalement, dans quelle mesure peut-on parler de stress pré-traumatique ? Je pense par exemple aux personnes qui n'ont pas subi de traumatisme direct, mais qui, par, je ne sais pas, la mémoire collective ou autre, voilà, seraient stressées ou anxieux à l'idée, justement, par exemple, d'être dans des lieux, d'aller dans les lieux publics, voilà, par peur d'avoir un attentat, voilà, par exemple, ou existerait-il, comme vous le disiez, des facteurs, des marqueurs biologiques, finalement, qu'on verrait avant le traumatisme ?
Oui, puisque j'en ai montré un certain nombre déjà. Et notamment, ce dont vous parlez, ce sont d'autres troubles psychiatriques, des troubles anxieux. Si c'est du stress chronique dont vous parlez, on va plus aller sur des modèles de développement de la dépression. Mais je pense que vous êtes plutôt axé sur les troubles anxieux dans votre question. Et le trouble de stress post-traumatique était, dans le DSM-4, classé dans les troubles anxieux. Il a une partie anxieuse et c'est tout. Par exemple, l'augmentation de l'activité de l'amygdale en facteur de risque de développement de troubles de stress post-traumatique antérieurs à l'exposition traumatique, c'est un marqueur d'anxiété. Donc oui, on a des marqueurs, mais on sort un petit peu de ce sujet. Et pour compléter cette réponse aussi, à partir d'un événement traumatique, on n'est pas obligé de développer un trouble de stress post-traumatique. On peut développer aussi des dépressions post-traumatiques et on peut développer des phobies, donc d'autres troubles anxieux.
Bon, bah alors s'il n'y a pas d'autres questions, de nouveau merci Isabelle et on va laisser la parole.